Journal qui vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Un déferlement de drapeaux espagnols dans les rues de Barcelone aujourd'hui, une semaine après le référendum sur l'autodétermination en Catalogne. C'était un peu la riposte des partisans de l'unité du pays. Reportage de Farida Nouar. Nous entendrons aussi l'une des figures de proue de ce mouvement, le Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa. Et puis gros plan sur cet article 155 de la Constitution espagnole brandi par le chef du gouvernement Mariano Rajoy, une disposition qui permettrait de suspendre les autorités catalanes. En Allemagne, Angela Merkel rencontre en ce moment même les dirigeants du parti bavarois de la CSU. La chancelière cherche à consolider le bloc conservateur avant d'entamer les tractations pour sa future coalition. Analyse à suivre de Nathalie Versieux. La Commission européenne poursuit sa procédure d'infraction contre le gouvernement Orban en Hongrie dans le viseur de Bruxelles. Toujours cette loi qui restreint la liberté d'association. Explication de Florence Labrouillère dans un instant. En France, Marine Le Pen entame sa tournée pour reconquérir les adhérents du FN. Elle met en garde cet après-midi ses électeurs contre le républicain Laurent Wauquiez. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Eh bien, nous parlerons glyphosate et Monsanto Papers ou comment les intérêts de l'industrie interfèrent dans le débat scientifique. Pour en parler, la journaliste Stéphane Aurel qui a décortiqué pour le journal Le Monde les milliers de documents internes de Monsanto rendus publics cet été, et le biochimiste Yves Berthaud, non pas pour débattre de l'innocuité du glyphosate, mais bien pour parler du processus de décision et d'expertise en matière de santé publique.
Merci Julie et à tout à l'heure, 18h15. La pression monte dans le camp des indépendantistes en Catalogne. Une semaine après le référendum controversé sur l'autodétermination, les partisans de l'unité de l'Espagne sont sortis en nombre dans les rues de Barcelone cet après-midi. Manifestation à l'initiative de la plateforme de la société civile catalane qui a revendiqué 950 000 participants contre 350 000 selon la police. Reportage de Farida Nouar.
D'habitude, ils sont plutôt discrets, mais aujourd'hui, le conflit est allé trop loin. Les anti-indépendantistes veulent se faire entendre. On est arrivé à la limite, on a laissé passer le problème, mais le moment est venu de s'exprimer. Si on ne le fait pas, on n'existe pas. Pour Monica, il ne faut plus s'écraser. Action, réaction, on a vu que les indépendantistes agissaient, alors nous répondons parce que nous sommes espagnols. Luis est venu avec les trois drapeaux, espagnols, catalans et européens. Ici, plus de la moitié de la Catalogne se sent catalane, vraiment catalane et espagnole en même temps. Le fait qu'il existe des partis politiques qui ont créé une loi électorale injuste et qu'ils ont obtenu une majorité de députés dans le Parlement, ça ne signifie pas que la majorité des citoyens sont indépendantistes.
No significa que la mayoría de la ciudadanía sea independentista.
Pour Maria, il faut rester unis. Je me sens aussi bien catalane que espagnole. Et donc c'est pour ça que je suis là. Je crois que la majorité ici pense que les deux choses, elles sont compatibles. Espagne unie ne sera jamais vaincue. Puigdemont en prison aujourd'hui, la majorité silencieuse ne veut plus se taire.
Merci Farida Nouar. Et parmi les manifestants cet après-midi, il y avait aussi le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, l'écrivain qui a pris la parole devant la foule pour dénoncer, je cite, la conjuration indépendantiste et pour rendre un hommage fort à Barcelone, capitale espagnole de la culture ouverte sur le monde. Mario Vargas Llosa est interviewé sur la chaîne CNews.
Il y a une forte proportion de Catalans qui ne se sentent pas représentés par les indépendantistes et qui ne veulent pas de ce coup d'État promu par le gouvernement catalan. Au contraire, ils pensent que l'Espagne et la Catalogne sont unies, et ce depuis 5 siècles, et que rien ni personne ne pourra les séparer.
Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa. On l'entend donc, les deux camps sont loin d'être réconciliés ce soir. Le président de la Généralité, Carles Puigdemont, s'exprimera mardi devant le Parlement catalan. Il estime toujours avoir remporté ce scrutin sur l'autodétermination avec plus de 90% des voix pour le oui. Carles Puigdemont qui réclame une médiation internationale. Mais à Madrid, Mariano Rajoy refuse tout dialogue tant que les Catalans n'auront pas retiré leur menace de rupture. Le chef du gouvernement espagnol se dit également prêt à faire usage de l'article 155 de la Constitution, article jamais utilisé qui permettrait de suspendre les autorités catalanes. Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne, nous détaille ce point juridique.
Concrètement, l'article 155 permet de suspendre le gouvernement régional catalan et de fait suspend le Parlement régional catalan. Alors, l'interprétation de l'article 155, elle dépend des circonstances. soit on est dans une suspension qui correspond à une suspension du statut d'autonomie, ce n'est pas la voie qu'explore le gouvernement, soit on est effectivement dans la suspension des autorités politiques de Catalogne, et à ce moment-là, il faudra très vite, en fait, renouveler ces autorités politiques par le recours à des élections. Donc, l'enjeu de l'article 155, il est d'une certaine façon de savoir qui va devenir maître du calendrier électoral. Et c'est la raison pour laquelle certains indépendantistes demandent au président Puigdemont d'annoncer la dissolution du Parlement régional pour provoquer des élections rapidement, alors que l'application de l'article 155 transférerait à Madrid la capacité de fixer la date des nouvelles élections. Donc, on va voir. Ça, c'est sur le plan politique et sur le plan, l'image et de la mémoire. La difficulté de l'article 155, c'est qu'il n'a jamais été utilisé, même s'il a été rédigé en 1978, et que s'il s'appliquait dans le cas catalan, eh bien, on viendrait du côté des Catalans à y voir l'illustration des mauvaises relations historiques qui existent entre Barcelone et Madrid.
Des propos recueillis par Ilan Malka. Dans le reste de l'actualité, le cinquième cycle de négociations sur le Brexit démarre demain entre Bruxelles et Londres. Et pourtant, la première ministre britannique envisage de se séparer de son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Le chef de la diplomatie l'a défié à deux reprises lors du congrès des conservateurs en fin de semaine. Theresa May, qui est toujours très fragilisée au sein de son parti, s'est expliquée dans le journal Sunday Times. La Hongrie est toujours dans le viseur de la Commission européenne. Nouvel ultimatum contre la politique du président Viktor Orban émis cette semaine. Son gouvernement ultra-conservateur a désormais un mois pour se mettre en conformité avec le droit européen. Au cœur de ce bras de fer, toujours les deux mêmes lois dont l'une menace la liberté d'association. Si le pays ne corrige pas ses textes, la Cour de justice européenne sera saisie. Florence Labruyère.
Pour la Commission européenne, les deux lois sont en contradiction avec les traités européens. La première oblige les associations qui reçoivent des dons de l'étranger supérieurs à 24 000 euros par an à s'enregistrer, comme en Russie. Et sous peine d'être dissoutes, elles doivent publier sur tous leurs documents la mention « organisation financée par l'étranger ». Un texte discriminatoire et qui réduit la liberté d'association, estime Bruxelles. Quant à la loi qui impose à l'Université d'Europe centrale des règles impossibles à respecter, elle viole la liberté d'établissement et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission européenne donne un délai maximum d'un mois à la Hongrie pour modifier ses textes, faute de quoi la Cour de justice européenne pourrait être saisie. La réaction de Viktor Orban a été cinglante. « Les opinions de la Commission européenne sont une farce », a déclaré Orban à la radio publique vendredi dernier. « Aucun juriste digne de ce nom ne peut les prendre au sérieux. Tout cela est ridicule. Nous irons devant la justice », a martelé Orban. La Hongrie pourrait être condamnée à de lourdes amendes, mais au final, ces amendes sont payées par le contribuable hongrois. Et Viktor Orban n'en a cure. Il a tout à gagner d'un bras de fer avec Bruxelles. Cela lui permet de s'affirmer en défenseur de la souveraineté nationale face aux technocrates européens et de gagner en popularité à 6 mois des élections.
Correspondance en Hongrie, signée Florence Labruyère. En Allemagne, 15 jours après les élections législatives, la chancelière est loin d'avoir constitué sa coalition gouvernementale. Mais avant d'entamer les négociations avec les libéraux et les verts, Angela Merkel rencontre en ce moment même à Berlin les dirigeants de la CSU, alliée bavaroise de son parti chrétien-démocrate. Objectif, aplanir les différends, notamment sur le sujet de l'immigration. Nathalie Versieux.
Ultra-conservatrice et catholique, la CSU a souffert plus encore que la CDU de la débâcle électorale du 24 septembre. Les conservateurs bavarois sont donc tentés par un virage à droite, notamment sur les questions migratoires. Ceux qui proclament à présent circuler, on continue comme avant, n'ont rien compris et mettent en danger la capacité du parti à diriger le pays, estime la CSU dans un document interne destiné à la préparation de la rencontre de dimanche. Angela Merkel doit, elle, résister à toute dérive droitière, d'autant qu'elle aura besoin des Verts pour former sa majorité. Leur chef de file, Cem Özdemir, a d'ailleurs appelé dimanche la CDU et la CSU à régler rapidement leur querelle afin de ne pas bloquer pendant des semaines la formation d'un gouvernement. Ce sont donc des négociations tendues qui se déroulent en ce moment même à Berlin et qui pourraient durer tard dans la nuit.
L'éclairage de Nathalie Versieux depuis Berlin. Cuba célèbre en ce moment même les 50 ans de la disparition d'Ernesto Che Guevara. 70 000 personnes se sont rassemblées dans la ville de Santa Clara. À cette occasion, le président Raúl Castro a laissé la parole à son probable successeur Miguel Díaz-Canel. Le numéro 2 du régime a prononcé un discours offensif contre l'impérialisme américain et d'autant plus dans le contexte du raidissement actuel des relations en lien avec la nouvelle politique de Donald Trump. Quelques heures après de nouvelles critiques émises justement par Donald Trump contre la Corée du Nord, le président Kim Jong-un a de nouveau vanté la dissuasion nucléaire de son pays. Il y avait ce matin à Pyongyang une réunion du comité central du Parti des travailleurs nord-coréens. Kim Jong-un qui a procédé également à une série de promotions au sein de son bureau politique, certains de ses proches, mais aussi sa sœur. Le compte-rendu de Frédéric Ojardias à Séoul.
L'arsenal nucléaire nord-coréen offre une puissante dissuasion qui protège solidement la paix face aux menaces nucléaires des impérialistes américains, a proclamé Kim Jong-un lors d'une réunion du comité central de son parti unique. Les médias nord-coréens ont relayé son discours quelques heures après une nouvelle invective de Donald Trump. Dans un tweet, le président américain a critiqué les précédents efforts diplomatiques menés vis-à-vis de Pyongyang et a, une fois de plus, évoqué à demi-mot des frappes militaires. Cette obstination de Trump à rejeter la diplomatie soulève des inquiétudes croissantes en Corée du Sud et elle renforce la détermination de Kim Jong-un à obtenir l'arme nucléaire. La réunion de son comité central lui a permis de nommer sa sœur cadette à un poste très élevé. Kim Yo-jong, 28 ans, est devenue membre suppléant du Politburo, tandis qu'un autre proche, Choi Ryong-ne, est devenu membre de la toute-puissante commission militaire du parti. Les faucons de Washington espèrent des dissensions au sein des élites de Pyongyang, dissensions qui pourraient amener un changement de régime, mais en dépit des tensions, ou peut-être grâce à elles, ces nominations montrent que la famille Kim resserre les rangs et tient encore plus fermement les rênes du pouvoir.
Merci Frédéric Ojardias pour votre compte-rendu. En France, à la veille d'une semaine sociale chargée, le gouvernement d'Édouard Philippe serre les rangs. Un séminaire gouvernemental se tient en ce moment à l'hôtel Matignon à Paris. En pleine bataille budgétaire, les projets de loi de finances et celui qui concerne la sécurité sociale devraient occuper les débats. Au Front National, Marine Le Pen tente de reconquérir les militants après la défaite à la présidentielle et les règlements de compte qui ont suivi. La présidente du parti a entamé une tournée des fédérations qui l'a conduite à Carpentras aujourd'hui. Sur cette ancienne terre frontiste perdue lors des dernières législatives, elle a mis en garde les adhérents FN contre la tentation Wauquiez.
Une alliance avec un Wauquiez qui aussi, suivant les circonstances, nous poserait en l'état un problème politique majeur. Aujourd'hui, il se présente sur une ligne qui certes se veut droitière et volontiers eurosceptique, mais il prend une jupéliste comme adjointe. Mais je vais vous dire, on les connaît tous ces dirigeants, les Républicains. Ils se droitisent pour séduire les militants et prendre le parti. Ils montrent leurs muscles en matière de lutte contre l'insécurité, de lutte contre l'immigration, et dès qu'ils sont assis dans le fauteuil, tout cela, on l'oublie et on se recentre tranquillement sur les positions de M. Juppé. D'ailleurs, mais à supposer qu'on décide de ne rien voir et qu'on veuille, comme le clament certains, faire alliance avec Wauquiez, il a déjà dit à maintes reprises qu'il ne ferait jamais alliance avec nous. Bon ben voilà, le débat est clos.
Des propos recueillis par Christine Moncla, Marine Le Pen qui a par ailleurs exclu le retour de sa nièce Marion Maréchal Le Pen en dépit du départ de Florian Philippot. Une centaine de viticulteurs se sont rassemblés cet après-midi à l'Istrac Médoc en Gironde. Ils ont dénoncé l'utilisation de pesticides dans les vignes. Rassemblement qui était organisé à l'initiative de 8 organisations collectives de riverains, associations donc et syndicats professionnels. Ces organisations estiment qu'il y a dans le pays un déni concernant la dangerosité des produits chimiques. Et il s'alarme de la non-reconnaissance de maladies professionnelles liées à ces produits. La météo, demain lundi 9 octobre, le pays sera couvert de nuages quasiment partout, du soleil néanmoins dans les Alpes, le relief pyrénéen et le littoral méditerranéen. Et les températures au réveil, 12 à Strasbourg, 14 à Paris et Lille, 15 à Cherbourg et Lyon, 16 à Bordeaux et jusqu'à 21 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.